et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Je sais pas si vous entendez les grenouilles. Je suis en train de démonter une clôture au bord de l'étang. Bon, il y a l'opi qui patauge dans l'eau, mais il y avait des grenouilles qui chantaient. Je sais pas si vous entendez. Mais je suis dans un champ de 2 hectares, peut-être un peu plus. Il y a toutes les brebis et les agneaux éparpillés, ça mange un peu. Il a plu, donc ça s'ébroue. Et là, il y a ma 210. Je ne sais pas si vous entendez. Qui appelle sa maman. Et moi, je vois sa maman. Et sa maman la regarde. Et elle appelle. Et il y a quand même 320 bêtes. C'est un peu grand. Bon, pas trop grand, mais... Et ça se retrouve au son. C'est quand même merveilleux. Et puis ça mange, ça pâture. Et puis là, en fait, j'étais en train de biberonner mes petits agneaux. Et il me manque mon Ivar. Je l'appelle Ivar parce que... Ah, il est là-bas. Il y a mon Chouki. Parce qu'en fait, quand il était petit, il y a peut-être une semaine, eh ben, il est resté 10 jours. Oui, viens, doudou. Couché. En fait, ses pattes. Attends. Oula. Bon, attends. Je mets pause parce que là. Ah. Ça y est. Ça s'est... ça s'est retrouvé. Bon, là, c'est ma 247 qui me réclame encore plus de bibi. Mais elle a déjà bu. Donc, ça suffit. Oh. C'est mignon. Et normalement, l'opi. Stop. C'est bien. Droite. Super. Gauche. Et normalement, la tonte devrait avoir lieu début mai. Donc, ça va pas leur faire de mal. Il y en a qui commencent un peu à se déplumer. Ah, bah, t'es là, toi, Nounou. Oh, mais oui, ça va, ma belette. Oh, oui, je sais. Oh, oui. Donc, la tonte, ça devrait être début mai. J'ai pas encore la date exacte. Mais ça devrait là. Leur faire du bien parce que là il y en a qui commencent un peu à perdre de la laine et puis bah, les températures vont monter. Donc cette année, qu'est-ce qu'on fait de la laine? J'en sais rien. Mais viens Nounou si tu veux, il en reste dans la louve. Je sais pas encore ce qu'on va faire de la laine. J'ai pas de projet particulier, il nous en reste un petit peu à mettre au verger et puis voilà. Ouais, là je surveille, je regarde si tout va bien en fait, s'il n'y a pas d'agneau un petit peu faible. C'est un peu la première pluie qu'ils ont. Hier, il a bien plu en fin d'après-midi. Bon, c'est un champ où il y a des arbres, donc ils peuvent se mettre à l'abri, mais c'est une parcelle, il y a des coins assez humides. Bon, là, ils sont sur le sec, évidemment, mais c'est un petit peu la première pluie... sur les agneaux. Donc ceux qui sont en forme, il n'y a pas trop de problème. Et puis c'est un peu ceux qui sont plus... Et toi, plus faibles. Donc voilà, je surveille. Je surveille que tout va bien, que les mamans aussi vont bien. Oh, ça tousse. Bah oui, t'as bu trop de lait. Trop vite. Donc voilà, mais il y a des beaux... Il y a des beaux agneaux, il y a des belles femelles qui commencent à entrer petit à petit dans la sélection du renouvellement. Oh, ma 167. Elle est trop belle, elle a un masque. Elle a deux grosses taches noires sur les yeux. Donc j'aime bien. Et après, je sais pas, j'ai bien envie de me faire un petit dimanche tranquille parce qu'il pleut. De répondre à mes correspondants. Eh ben viens Nounou, on est là. Et faire des crêpes. je viens de changer le lot des brebis avec les agneaux. Et ça fait plaisir parce que ça fait depuis quelques jours, quelques semaines qu'on court un peu après l'herbe pour les pâturages. Et comme il fait assez sec, ben les parcelles qu'on a pâturées repoussent pas si vite qu'il faudrait. Donc on a appelé un voisin pour lui demander s'il pouvait nous vendre du foin. Et il a accepté. Donc ça nous a libéré des parcelles que nous on avait réservées pour la fauche. Sur notre ferme. Et donc là, mais je suis en bas du seigle, c'est un grand champ qu'on a récupéré il y a 3 ans là. Et je viens de faire la clôture pour les brebis et je viens de les passer non sans mal, parce qu'en fait j'ai clôturé un petit îlot dans la parcelle. Et donc en les emmenant, elles ont voulu pâturer partout, normal. Donc ça a été un peu dur de les mettre dans le bon carré, mais là c'est bon, elles y sont. Elle mange des grosses bouchées d'herbe bien vertes. Il y a même du trèfle en lisière. Donc ça, c'est chouette. Je pense que ça va faire un bon coup de pouce sur les mamans et sur les agneaux. Et du coup, c'est pas mal. Normalement, on devrait avoir la tonte en début de semaine prochaine. J'ai hâte. Et il y en a... En tout, il y a les brebis viande et les brebis lait. Il y a un peu plus de 200... 40 bêtes, donc ça va nous prendre la journée et ils devraient venir à 2 tondeurs pour passer tout le monde et voilà, ça va leur faire du bien parce que le temps est quand même assez chaud et les nuits commencent à être moins fraîches et puis là il y en a quelques-unes qui commencent à bien perdre leur laine, il y en a une qui il lui reste juste une petite touffe sur les fesses, donc je pense qu'à la tonte ça va être plutôt rapide. Voilà, bon, je l'ai piqué. Et du coup, voilà. Donc cette année, c'est un peu particulier au niveau de l'herbe. Parce que on a plus de bêtes. Avec moi, mon troupeau qui est arrivé à son maximum. L'arrivée des laitières. Et il y a eu des champs, entre guillemets, immobilisés cet hiver à cause de travaux. Donc ça a été vraiment, vraiment la galère pour le planning de pâturage et voilà. Mais les laitières ne sont pas destinées à rester parce que finalement nos associés s'en vont. Donc c'était ça le gros morceau de début d'année. Donc voilà, donc il n'y aura plus de laitières sur la ferme, il n'y aura plus de brebis laitières sur la ferme. Donc voilà, donc nous on continue notre routine. Et puis il y aura peut-être des petits changements à l'avenir, on va voir. On n'est pas sans projet. On a une énergie un peu basse, mais on n'est pas sans projet. Bon, et ben là, je vais retourner à la ferme. Je vais atteler la tonne à eau sur le tracteur parce que c'est un champ où il n'y a pas d'eau. Et puis, je vais leur amener ça. Et ma foi, je pense qu'elles vont bien y rester 3-4 jours. Et puis après, on refera un parc pour les faire pâturer en avançant le fil. Et puis après, les champs déjà pâturés, ça devrait avoir repoussé. J'espère qu'il y a un peu d'eau qui est prévue. Le vendredi peut-être, mais bon, rien n'est sûr et ça change à chaque fois. Enfin bon, c'est assez... On est pas mal stressé. Au maraîchage, ça va parce qu'il y a l'étang à côté, donc on peut arroser encore sans problème. Mais... Voilà, à long terme, c'est quand même des gros questionnements et un stress quotidien, quoi. Alors, je viens d'emmener mes béliers au village avec l'opi. Il y en a 11, il n'y en a pas beaucoup. Et là, je rentre par le petit chemin qui passe le long du ruisseau qui sort de l'étang. Et qui passe dans la forêt et qui arrive juste au-dessus de la ferme. Et c'est une des plus belles vues de la ferme, je trouve. Enfin, pas vraiment de la ferme, on a même plutôt des monts de Blon qu'il y a derrière. Parce que ça fait vraiment... on est légèrement à mi-hauteur des monts de Blon. Et il y a la forêt, il y a la prairie qui descend. Et de ce point de vue-là, en fait, on a vraiment l'impression que les monts de Blon sont des grandes montagnes. Alors que c'est pas trop le cas, ça doit culminer à 515 mètres. C'est des petites montagnes. Et donc là, je remonte. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faut que je change mon gros lot de femelles et des agneaux. On les a tondus lundi après-midi. Et donc, je les avais mis dans un parc juste en face du tunnel. Et là, je vais les remonter dans le champ qu'on appelle le sel. C'est un beau champ. Et il y a pas mal d'herbes avec du trèfle. Donc, elles sont bien. Et voilà. J'aimerais bien avoir le temps d'aller récolter des fleurs de sureau après manger ou pour faire de la limonade de sureau. Hier, j'ai lavé toutes mes bouteilles. J'en ai 28, je crois. Donc je vais pouvoir faire une bonne session de limonade. Et ce que j'aimerais bien faire aussi cette année, et je ne sais pas si ça va être possible, il faudrait que je retrouve des bouteilles que je demande à droite à gauche. Les bouteilles avec le bouchon mécanique là. Parce que j'aimerais bien essayer de faire de la limonade de fleurs d'acacia. Et là c'est en fleurs et c'est très très court la floraison de fleurs d'acacia. Donc j'aimerais bien ne pas louper ça. Donc voilà le petit programme. Sinon, le printemps à la ferme, eh ben, c'est un printemps qui ressemble plutôt à l'été. On n'a pas eu d'eau de tout le mois de mai. Il fait plutôt chaud. Donc c'est assez sec. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil et j'ai l'impression que ben, ça va être récurrent. Ah là là. Donc, quelles sont les pistes pour cette année, pour gérer cette année? On a demandé à un voisin donc, du foin. Donc, on a débrayé des prés de fauche pour les mettre en pâturage. Moi, je vais sûrement rediminuer un peu mon troupeau. Parce que, par rapport à mes terrains, s'il y a des années comme ça, il peut difficilement supporter autant de bêtes. Là, en tout, dans mon troupeau, donc les brebis, les agneaux et mes béliers, il y a un peu plus de 320 bêtes. Et cette année, il y a également les brebis laitières et les deux chevaux. Et donc, pour des années comme celle-ci, au niveau pâturage, c'est limite. Non. Nos terrains ne peuvent pas supporter beaucoup plus quoi. Donc voilà, la réflexion est là. Donc dans tous les cas, le troupeau des laitières va s'en aller, mais on ne sait pas trop quand. Et puis moi, je vais sûrement diminuer un tout petit peu les brebis. Donc c'est des questions qu'on se pose cette année, mais c'est aussi des questions qu'on se pose de manière plus globale. Comment avoir une ferme plus résiliente? Comment limiter notre impact encore plus? Donc pour l'instant, les productions qu'on a par rapport à d'autres, mais c'est purement empirique, hein, elles ne sont pas tellement énergivores. Il y a un petit peu de gasoil pour les tracteurs, mais je crois qu'on est à environ 1000 litres par an, ou 1200, je ne sais plus, j'avais regardé, mais je ne sais plus. Enfin, autour de 1000 litres par an. Et en électricité, alors ça c'est avec la maison confondue, donc... Mais on n'a pas beaucoup de... Il y a la machine à laver, le chauffe-eau et les circulateurs de la chaudière à bois l'hiver. On était aux alentours de, pareil, je crois, 1 400 € de facture d'électricité à l'année. Ce qui consomme pas mal sur notre ferme actuellement, c'est la pompe d'irrigation de maraîchage. Ça consomme pas mal d'électricité. Il y a aussi la chambre froide des légumes qui a pas mal tourné. Ça consomme aussi un petit peu d'électricité. Donc là, on va l'arrêter parce qu'il n'y a plus rien dedans. Il y avait des patates, mais on va les enlever. Ce qui consomme aussi, c'est les chauffages dans la fromagerie, les groupes froids. Ça consomme beaucoup, mais c'est pas voué à rester. Donc ça va diminuer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, je crois. Voilà. Donc l'idée, ce serait bien sûr de finir d'aménager la chambre froide pour l'isoler au maximum. Donc elle est déjà dans une grange, bien sûr à l'ombre, mais quand il commence à faire 30-34 dehors, faut quand même que ça tourne pour maintenir à l'intérieur des températures de 5 degrés. Donc ça, faut qu'on faut qu'on l'isole un peu plus avec, je pense, des petites bottes de paille. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi que j'améliore mes prairies en mettant plus de fumier pour être plus productive en fait. Parce que j'ai fait une formation herbe et en discutant avec d'autres éleveurs, je me suis quand même aperçue que mon rendement à l'hectare de foin était de moitié moins que la plupart des autres qui sont sur des terrains sensiblement pareils et en bio. Donc c'est des valeurs comparables. Donc il faut que je m'améliore sur mes prairies pour sortir du foin sur un peu moins de surface, pour consommer moins de gasoil. Les autres pistes d'amélioration, c'est encore investir dans des outils manuels au maraîchage, parce que on fait une partie en mécanisé, petit tracteur, et enfin voilà. Donc ce serait l'idée de Hugo, ce serait de travailler au maximum les serres à la main. Bon, c'est un petit défi aussi parce que c'est sur les surfaces, ben, c'est quand même du boulot. C'est déjà très physique et en plus c'est de plus en plus difficile entre guillemets. Enfin, on s'améliore personnellement, mais des journées à 30 degrés où il faut bosser, c'est vrai que c'est pas la même que quand on bosse à 20 degrés quoi. Donc voilà, mais je pense qu'il y a pas mal de moyens à mettre en œuvre pour encore s'améliorer sur ça, quoi. Et puis au niveau personnel, eh ben depuis peu on a installé des toilettes sèches en bas dans la maison. Ce qu'il y avait dans la maison, c'était juste des toilettes à eau à l'étage. Et ben ça faisait des années qu'on en parlait. Et puis voilà, ça, enfin, la vie fait que on prend pas le temps. Et puis je sais pas, un soir. En ce moment le soir ça je suis à fond parce qu'il faut que j'attende 22 heures pour fermer les poules. Donc et comme il fait encore jour, bah, j'ai du temps. Et j'ai du mal à me poser à lire mon livre avant d'aller fermer les poules. Le jour fait que j'ai envie d'être encore à bricoler quoi. Et donc un soir, il était tard, je dis bon allez là, faut qu'on fasse les toilettes sèches, c'est plus possible de faire nos besoins dans de l'eau potable, bref. Donc on a bricolé des toilettes sèches avec une étagère, deux palettes et enfin un seau. Bon c'est pas du grand luxe, hein, mais ça fait son office. Et du coup ils sont en bas, dans la sorte d'entrée, garage, enfin voilà. Et Elga est super contente, elle les a adoptées tout de suite et nous aussi. Donc ça c'est un gros plus, j'avoue que... Quand j'y pense, je me dis, mais c'est tellement bête qu'on n'ait pas fait ça avant. Enfin bref, mais maintenant c'est fait. Et puis sinon, au niveau de la résilience, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben, au niveau du troupeau de moutons, ça fait quand même 7 ans que j'y travaille, mais c'est vraiment un travail d'une carrière, je pense. C'est d'avoir un troupeau également résilient, c'est-à-dire totalement adapté au territoire, rustique. On emploie ce terme et vraiment c'est ça. Donc je travaille là-dessus. J'avoue que l'an dernier j'étais un petit peu démotivée parce que j'avais eu beaucoup de pertes sur les agneaux à la mise à l'herbe et je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je fais. Bon, enfin, tous les ans il y a un peu une remise en question, mais là c'est l'an dernier, c'était un peu fatigant et une baisse d'espoir. Mais là, je suis partie, je lis pas mal de choses, je fais des essais, je prends pas mal de notes et j'espère que ça va marcher. Bon, je suis partie avec mon panier et mon ciseau. Il me faut 60 ombelles de fleurs de sureau. Là, je suis partie dans mes petites fermentations. Je suis très contente parce que j'aime bien faire ça. La petite surprise que Hugo m'a fait hier, c'est qu'il a planté de l'ail cet hiver, dehors et en serre. Et hier, il m'a amené un joli petit bouquet d'ailier. Donc, c'est de l'ail frais, mais en fait, qui est déjà bien avancé. Et il y avait des petites gousses déjà bien formées. Du coup, j'ai fait mon ail fermenté. Ça faisait depuis des mois que j'en avais plus. Et là, on a fait ça hier, tranquillou, avec Elga. Donc, on a épluché l'ail. C'était assez facile, comme il est frais. Les petites peaux s'en allaient bien. Et donc, j'ai fait un pot pour l'instant.
Donc vous remplissez votre pot de gousses d'ail et puis vous recouvrez de miel et vous laissez sur votre comptoir dans la cuisine quelques jours. Et normalement ça devrait fermenter. Ça devrait fermenter et vous donner de l'ail à moitié confit, fermenté, et un délicieux miel au goût d'ail. Donc c'est un super booster pour le système immunitaire, selon des études. Mais je trouve surtout que c'est un très très bon, ça a très bon goût en fait. Moi j'utilise le miel, en fait en fermentant le miel se liquéfie et il devient très liquide. Et je le mets dans les vinaigrettes en fait. Et c'est vraiment délicieux. Une bonne salade verte avec une vinaigrette au miel, à l'ail fermenté et un peu de levure. Un vrai régal. Donc en fait, ils ont le miel est déjà connu pour ses avantages médicinaux. Et puis l'ail aussi. Et donc c'est parfait d'en avoir un peu en stock pour la saison du rhume ou de la grippe. Bon, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le faire l'été. Et puis ça dure pas très longtemps à la maison, mais si vous pouvez en stocker et ne pas tout consommer, c'est parfait, parfait pour l'hiver. Donc le miel est composé à environ 80% de sucre et 20% d'humidité, donc c'est un produit très stable à la conservation, qui a des propriétés antiseptiques, et en fait l'ail va apporter aussi ses bienfaits. Et les deux en fait vont fermenter. Alors le miel devient assez liquide, assez sombre et il est infusé au goût d'ail en fait. Donc moi j'en prépare pas mal, mais vous pouvez faire un pot ou 20, mais c'est la même recette et c'est pas très compliqué. Donc moi ce que j'aime faire c'est remplir mon bocal et ensuite le recouvrir de miel. Alors c'est même pas une recette parce qu'en fait vous combinez juste deux ingrédients et c'est vraiment hyper hyper facile. Faut pas hésiter à essayer si vous aimez l'ail et le miel évidemment. Et c'est vraiment très bon. Peut-être que le plus long à faire c'est de préparer l'ail, donc d'éplucher l'ail pour le débarrasser de ses peaux en fait. Donc faut remplir à peu près le bocal aux trois quarts ou même à la moitié, ça suffit, d'ail épluché. Et après il suffit de verser un peu de miel en fait pour recouvrir les gousses d'ail. Donc l'ail va flotter en fait au début, mais c'est pas grave, vous allez recouvrir l'ail et vous allez retourner votre peau en fait. Donc à partir de là, le processus de fermentation commence et en fait le jus de l'ail qui va s'extraire en fait, il va créer assez de liquide pour démarrer la fermentation. Donc une fois que vous avez mis votre ail et que vous avez recouvert de miel, vous pouvez juste couvrir le bocal avec son bouchon mais sans le fermer à fond hermétiquement. Et vous le mettez, alors moi je le laisse dans la cuisine sur le meuble, parce qu'on a une maison assez fraîche et faut pas le mettre en plein soleil, il faut plutôt le mettre dans un endroit assez sombre et ça va fermenter. Alors ce qui est bien aussi de faire, c'est de mettre une petite soucoupe, une assiette en fait sous votre bocal, parce que y a toujours un peu de miel qui déborde en fait. Du fait de la fermentation, pardon, ça va créer des petites bulles en fait et ça peut passer par-dessus le bord et déborder. Donc n'hésitez pas à mettre une petite assiette en dessous pour éviter de salir votre meuble, votre table. Ce qui est important de faire aussi, c'est une fois que vous avez fait votre préparation et que vous l'avez laissé fermenter, c'est de la retourner en fait, de retourner votre bocal bien fermé cette fois pour vraiment que toutes les gousses d'ail soient bien imbibées en fait. Donc ça c'est important de le faire et puis vous retournez votre pot 5 minutes et après vous le remettez la tête en l'air, vous réouvrez le couvercle pour que la fermentation continue. Une semaine grand max, généralement il y a des petites bulles en fait qui sont à la surface, juste à la surface de votre miel, et ail. La fermentation va continuer environ un mois, mais vous pouvez déjà le consommer au bout d'une semaine, c'est comme vous voulez. Alors plus vous allez le laisser et plus la saveur de l'ail va se développer avec le temps. C'est pas du tout fort, l'ail s'adoucit et le miel devient de plus en plus liquide en fait. Après, au bout d'un mois, vous pouvez mettre votre bocal au frigo. Et vous pouvez le conserver des mois. Alors là, j'ai pas de référence ou de chiffre exact, mais je sais que moi, j'en avais gardé un
Oh, l'opi, non, viens pas mouiller. J'en avais gardé un à plus d'un an facile. Voilà. Donc, de toute façon, faites confiance à votre vue, à votre odorat et à votre goût. Si ça sent pas bon, si ça a pas l'air beau, eh ben, ne vous risquez pas. Mais je vous dis, ça se conserve très bien au frigo. Voilà pour la petite recette, entre guillemets, c'est pas vraiment une recette, d'ail fermenté au miel. Vraiment, je vous conseille, c'est délicieux. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle. Bon, je vais essayer de trouver 60 belles ombelles de sureau et d'aller remplir mes bidons de fermentation pour faire de la limonade. Je vais lancer un appel aux dons parce que j'ai pas assez de bouteilles de limonade. En fait, j'en récupère tout au long de l'année. Mais là, j'aimerais faire 30 litres de sureau, de limonade de sureau et 30 litres de limonade d'acacia. Et j'ai que 27 bouteilles. Donc, je vais demander aux voisins, aux gens, s'ils n'ont pas des bouteilles de limonade ou de bière avec les bouchons mécaniques là, pour me dépanner.